BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour et bienvenue dans BFM Climat. Depuis les rencontres de Roissy Meaux Aéropole, le nouveau grand rendez-vous de la décarbonation des transports avec des grands patrons, des politiques réunis ici toute la journée pour avancer sur le sujet. On va parler d'hydrogène, on va parler des mobilités vertes, on va parler des nouvelles énergies et on va essayer d'avancer effectivement sur le sujet, comment décarboner les transports, comment accélérer ces transitions et puis comment s'adapter aussi au changement climatique. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui dans BFM Climat. Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Meaux et l'organisateur, l'un des co-organisateurs de ces rencontres de Roissy Meaux Aéropole. Et à vos côtés, Olivier Sichel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général délégué de la Caisse des dépôts et le directeur de la Banque des territoires. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau de BFM Climat. Jean-François Copé, je commence avec vous. Évidemment, on vous connaît tous sur le plan politique, mais on vous attendait moins sur l'énergie. Pourquoi est-ce que vous lancez sur ce sujet? Et en plus, avec une focale quand même très précise, très pointue, qui est celle de l'hydrogène.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a la chance ici d'être sur un territoire qui est totalement dédié, proximité avec Roissy oblige, à l'aérien, l'aéronautique, l'aéroportuaire et l'avionique. Et tout naturellement, on s'est regroupés, parce qu'un projet n'a de sens que s'il y a des élus dans les territoires qui prennent les choses en main. Et donc, on s'est regroupés avec mes trois amis et collègues des trois autres agglomérations qui contournent Roissy. Au total, on couvre 110 communes, 500 000 habitants. Mmh. Et ce groupement, donc Roissy Meaux Aéropole, que j'ai la chance de présider, mais en totale collégialité avec mes amis, a considéré qu'il fallait évidemment porter le fer sur la question des énergies nouvelles. Donc, il y a un focus sur l'hydrogène, mais c'est bien les énergies nouvelles dans leur ensemble, parce que on n'imagine pas de développer les mobilités et en particulier l'aérien sans parler de carburant propre, le fameux SAF. Ouais. Mais on n'imagine pas non plus de ne pas parler du coup d'implantation de stations hydrogène, de parler de tous ces investissements qui sont indispensables. Puis j'ai envie de vous dire, à un moment où on cherche les meilleures pistes, où on cherche des grands virages industriels, l'hydrogène paraît comme une évidence. Ça l'a été depuis 3-4 ans parce que c'était évident que ça devait se faire. Et puis là, depuis un an, on en parle un peu moins. L'industrie, c'est pas ça. On fait pas des allers-retours. On y va, on fonce et on avance en investissant massivement dans la recherche.
Ouais. Alors vous, très concrètement, au niveau de Meaux, justement, au niveau de l'agglomération que vous présidez, ça représente quel montant d'investissement? C'est quoi les objectifs un peu précis que vous vous êtes fixés de?
Alors les objectifs, ils sont très simples. Ouais. On veut accompagner tous les investissements de la plateforme aéroportuaire. Okay. Donc il y a effectivement un calendrier. 2024, c'est la première étape jusqu'à 2030, et puis ensuite on avance jusqu'à 2050 et 2060, parce que évidemment, c'est des rendez-vous de long terme, comme ça l'a été pour le nucléaire du temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et c'est exactement la même démarche. Et donc l'objectif, c'est d'impliquer au maximum notre territoire à travers des investissements opérationnels, secteur privé et partenariats public-privé, d'où les partenariats bien sûr avec la Banque des territoires, pour que sur cette séquence longue, ce territoire soit vraiment dédié à l'investissement sur les énergies nouvelles.
Et vous, avec votre ville, vous avez des moyens, enfin on le sait en ce moment, les finances publiques sont contraintes, vous avez des moyens pour financer ces investissements,
oui,
participer à l'investissement.
Oui. Alors, non pas participer à l'investissement, d'ailleurs on n'en a pas le droit en tant que communauté d'agglomération, mais par contre ce qu'on a le droit de faire, il faut le faire, c'est de faciliter les conditions d'implantation. D'accord. Puisque nous maîtrisons le foncier, puisque nous facilitons l'accueil des entreprises, et évidemment en partenariat avec la région et le département de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise. Tout ça, on a tout mixé ensemble, et la région Île-de-France, pour le coup, est très engagée. Valérie Pécresse viendra tout à l'heure l'expliquer à nos congressistes, puisque nous avons décidé de faire tous les ans, le deuxième mardi d'octobre, un colloque dédié à cela, et c'est la deuxième édition, et on va tout poursuivre évidemment avec BFM Business d'ailleurs.
Tout à fait, on était là l'an dernier déjà et on est fidèle au rendez-vous cette année. Olivier Sichel, donc vous, la puissance publique au sens très large, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, très concrètement, l'hydrogène, quelle est la feuille de route de la puissance publique que vous représentez?
La feuille de route pour l'hydrogène, c'est vraiment d'accompagner cette transition, cette innovation, parce qu'on est dans la phase d'innovation, et donc on finance beaucoup de projets. On finance une cinquantaine de projets locaux, puisque c'est la Banque des territoires, qui vont être par exemple des stations d'avitaillement. Je vais en donner un exemple qui n'est pas à Meaux, Jean-François me pardonnera, à Dijon. Mmh. Où à Dijon, on finance des bennes à ordures, qui sont des bennes à ordures à hydrogène, qui permettent d'amener les ordures à un incinérateur, et l'incinérateur va permettre de dégager de l'énergie pour produire de l'hydrogène qui va aller dans les bennes à ordures, qui vont chercher l'ordure. Et donc vous avez un cycle qui est vertueux, qui est un cycle de production écologique, où donc vous avez une énergie décarbonée grâce à ce système-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais on est aussi surtout investisseur auprès de très grands acteurs de l'hydrogène. On avait ce matin avec Jean-François Copé, Life, qui est un très grand producteur, qui est un producteur en bourse, qu'on a investi, dans lequel on a investi dès le départ, avec d'ailleurs des acteurs locaux. Une SEM d'énergie nouvelle qui s'appelle la SEM Vendée, qui dépend du département du Vendée. Et puis on a travaillé, il y avait aussi Édouard Philippe ce matin, on travaille évidemment sur l'aménagement des grandes plateformes portuaires. Il y a un lien entre l'hydrogène et les plateformes portuaires que sont Le Havre, Dunkerque et Fos.
Au total, ça représente combien d'investissements pour vous, ces 50 projets?
Ça représente 82 millions. 80 millions d'euros d'investissement dans ces projets.
On est encore assez loin de... Parce qu'enfin, je me souviens, post-Covid, le gouvernement ne parlait que de ça. Vous le dites, Jean-François Copé, on entend moins parler ces derniers temps. Mais alors, post-Covid, avec France Relance, France 2030, on avait annoncé, on en parlait avec Philippe Bouclier de France Hydrogène, 7 milliards, je crois, de mémoire. Là, on en est... enfin, il y a encore de la marge. Vous me parlez de 80 millions.
Alors, tout va pas passer par nous, mais... Alors, tout ne passe pas par nous. Dieu merci. Hein, on est quand même dans une économie de marché. Life, on est un tout petit actionnaire. Et il y avait une table ronde avec des grands financeurs, que sont par exemple le groupe Natixis, ou des opérateurs qui sont un fonds. Il y avait le dirigeant d'un fonds qui pèse à lui tout seul 1 milliard sur cette filière-là. En revanche, ce qui est intéressant justement dans ces rencontres à Meaux, c'est qu'on se dit les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les technologies ne sont pas encore matures. Il y a encore des sujets industriels à faire. Ouais. Mais moi, je l'ai connu il y a 20 ans dans le solaire ou la partie même éolien ou éolien offshore. On est un peu au même niveau. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Je remercie vraiment Jean-François Copé d'avoir donné à la communauté cet événement pour... avoir un lieu où tous les acteurs se parlent et se disent, et on a vu les discussions qui ont été très très claires en disant oui, il y a des difficultés de monter en charge. On est en phase où, si vous voulez, les technologies, elles sont matures, mais en matière de production, de passage à l'échelle, on a un saut à faire.
Donc vous, Jean-François Copé, donc on entend bien qu'il y a des doutes. Comme vous dites, c'est inhérent un peu à tout processus industriel, à toute révolution technologique. Vous faites ces rencontres un peu pour... prendre le relais, enfin faire en sorte qu'on continue d'avancer.
Mais je pense que c'est le rôle de la politique en fait. Et on dit souvent que la politique ça sert à rien, c'est pas vrai. La politique ça sert à quelque chose. Ça sert tout simplement à faire en sorte que les grands débats soient sur la table et qu'on associe les acteurs publics, les acteurs privés, que ce soit des industriels, des financeurs. Hein. Pour la première fois, nous avons une table ronde absolument passionnante à laquelle Olivier Sichel a participé avec un fonds d'investissement très important, en l'occurrence Ardian, mais aussi Natixis pour le financement de la dette. Et où on a pu à cette occasion aborder très librement tous ces sujets. Et surtout, le rôle de l'élu que je suis, c'est aussi de proposer une perspective. On ne peut pas être que dans l'immédiateté du journal télévisé, aussi passionnant soit-il. On est là aussi pour dire, mais attendez, on tient bon. On s'inscrit dans la durée. Regardez des grands pays comme la Chine, comme les États-Unis. Il faut que l'Europe soit en situation de prendre le temps long. Alors oui, il y a eu France Hydrogène, il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été lancés, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Moi, je me souviens quand, pendant le Covid, on a expliqué que l'aéro, c'était fini. Plus personne prendrait jamais l'avion. J'étais un des rares à dire, mais vous êtes complètement dingue. À la minute où on aura la possibilité de ressortir, tout le monde reprendra l'avion. Et évidemment, le trafic a repris et l'important pour nous, c'est de prendre le relais pour le décarboner. Donc, c'est ça notre mission. Et c'est pour ça que des tables rondes, des colloques comme ceux-là sont indispensables dans la durée et que ce colloque se tiendra tous les ans avec à chaque fois les acteurs industriels et les acteurs publics. Le débat avec Édouard Philippe a été lui aussi très intéressant, avec Édouard Philippe, maire du Havre cette fois, pas comme Premier ministre, mais comme maire du Havre, avec Catherine McGregor, présidente, directrice générale d'Engie, la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, où ils ont abordé clairement ces sujets de transport, d'infrastructures entre le portuaire et l'aérien.
Mais vous qui représentez l'État, Olivier Sichel, vous confirmez que l'État sera au rendez-vous de... cette révolution de l'hydrogène?
Ah non, moi je ne représente pas l'État. Moi je suis directeur de la Banque des Territoires et à ce titre-là, on a une certaine autonomie, on dépend du Parlement et donc il y a des engagements qu'a pris l'État. Moi je constate que...
Est-ce que le Parlement, enfin voilà, on connaît la situation, est-ce qu'il va voter les crédits comme c'était prévu autour de ça?
Alors nous, nos crédits, nos crédits ne dépendent pas du Parlement. Nos crédits, c'est le livret A, les fonds propres de la Caisse des dépôts. Et donc ça, nous on a un engagement de mettre à disposition 100 milliards 100 milliards sur la transition énergétique.
Ouais, ça,
et donc ça, on le fait. Chaque année, on représente 20% de la capacité additionnelle d'énergie nouvelle renouvelable en France. Et ça, c'est un engagement qu'on a pris dans la durée avec des structures qui sont aux côtés des élus. Nous, souvent, nos donneurs d'ordre, c'est pas l'État. C'est les maires, c'est les présidents de région, c'est les collectivités locales qui, elles, ont une certaine continuité parce que ce qu'a dit Jean-François, c'est important, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont nés et qui se développent dans les territoires. Et Édouard Philippe, comme Jean-François l'a dit, il vient en tant que maire du Havre et avec un engagement très très fort de développer son infrastructure portuaire. Alors certes, il a besoin de l'État, certes, il a besoin d'un certain nombre d'autorisations, mais c'est quand même une politique très très longue avec une direction qui a été donnée de vraiment investir dans l'hydrogène et dans laquelle moi je suis extrêmement convaincu et engagé.
Et alors au-delà de l'hydrogène, vous le disiez, vous avez un plan de 100 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans, vous en êtes où ? Vous allez tenir ce plan ?
Oui, oui, on va tenir ce plan. Alors, 100 milliards d'investissement, c'est tout le groupe Caisse des dépôts. Dedans, vous avez BPI France qui fait la décarbonation de l'industrie. Et vous avez la Banque des territoires qui fait essentiellement deux choses. L'investissement dans les énergies nouvelles renouvelables, dont l'hydrogène, mais aussi, je voudrais le rappeler, la meilleure énergie, c'est celle qu'on dépense pas. On fait de la rénovation thermique. On fait la rénovation thermique des logements sociaux. On fait la rénovation thermique des écoles. On a un très grand plan de rénovation des écoles pour éviter que ce soit des passoires thermiques. Et puis, on fait aussi toute la décarbonation des transports avec des investissements très importants qui sont les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et on a beaucoup parlé de véhicules électriques et de la nécessité, si on veut décarboner le transport, d'avoir aussi des bornes de recharge. C'est bien beau de vendre des véhicules électriques, mais encore faut-il être sûr de pouvoir les recharger.
Ouais. Alors, même question pour vous, Jean-François Copé. Au-delà de l'hydrogène, c'est quoi votre feuille de route climatique à vous au niveau de Meaux, au niveau du pays de Meaux ?
Alors, nous, on est très engagés dans ces domaines-là. Il faut que vous sachiez que j'ai fait construire ici, fait aménager le parc solaire le plus important d'Île-de-France, qui est d'ailleurs aujourd'hui géré par Engie, mais qui était autrefois par une start-up. Qui a depuis été racheté. Nous avons un nombre de kilomètres important de pistes cyclables, 45 kilomètres, ce qui pour une ville comme la nôtre est très significatif. On a un plan de végétalisation massif. On a d'ailleurs le grade le plus élevé, ce qu'on appelle les quatre fleurs. Et puis on a sur le plan électrique, énergétique, une transformation complète de notre système d'éclairage public qui fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de notre éclairage public est en LED, ce qui constitue une économie budgétaire absolument considérable par rapport à l'éclairage classique. Donc ça fait partie de ces pistes que nous mettons en place, sans oublier ce qui est fait sur le tri sélectif, la collecte. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait il y a un grand oubli dans ce qui est dit sur le développement durable, c'est le travail considérable qui est fait par les collectivités locales, mais donc par les citoyens eux-mêmes en matière de développement durable, et qui fait que la France et l'Europe, on est parmi les meilleurs élèves du monde. On culpabilise beaucoup les gens sur le développement durable, et à mon avis, c'est très grave parce que on oublie d'encourager tout ce qui est fait dans ce domaine, et avec effectivement des partenaires majeurs comme la Caisse des dépôts.
Est-ce que vous allez pouvoir continuer à investir autant que vous le souhaitez? Parce qu'on le voit là, par exemple, dans le budget qui arrive, il y aura moins d'argent pour la voiture verte, il y aura moins d'argent pour MaPrimeRénov', il y aura moins d'argent pour le fonds vert.
Ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup parce qu'en réalité, l'État fait payer son incurie sur les collectivités locales, alors qu'en réalité, c'est l'État qui a très mal géré ses finances. C'est pas les collectivités locales. Nous, on gère plutôt bien. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de voter les budgets en déficit. Et deuxièmement, parce que
donc ça veut dire que vous allez pouvoir moins investir par ricochet.
Vous savez, on est aujourd'hui les premiers investisseurs de France, en fait, les collectivités locales, beaucoup plus que l'État. Et on représente à peu près 70% d'investissement public. Et en réalité, en faisant ce qu'il fait, l'État va nous bloquer complètement sur l'investissement. Donc moi, c'est une assez grosse inquiétude. Je préférerais que l'État fasse des économies sur son propre budget que sur le budget des collectivités locales.
Olivier Sichel, toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. On a parlé décarbonation, c'est le sujet ici. Il y a quand même aussi, bien évidemment, même si elle est encore moins présente dans le débat public, la question de l'adaptation, qui est au moins aussi importante, c'est-à-dire gérer les conséquences du changement climatique, parce qu'il est déjà là. Il y a le PNAC, qui était censé être présenté par le précédent gouvernement, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, on l'attend toujours. Mais très concrètement, vous, à la Caisse des dépôts, à la Banque des territoires, est-ce que vous avez un plan ? Qu'est-ce que vous faites pour adapter les territoires ?
Absolument.
Vous, par exemple, Jean-François Copé, mais c'est la tempête Kirk qui est arrivée chez vous, en Seine-et-Marne, qui a eu des effets dramatiques. Et on voit ça partout, sur toutes les chaînes et dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la Caisse des dépôts pour ça ?
Absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, on a aussi des financements pour l'adaptation au changement climatique. Très concrètement, c'est du financement, par exemple, de digues pour prévenir les inondations. Exactement. Dans le pays de Calais, on a financé des infrastructures assez importantes pour éviter les inondations. On a aussi des financements sur le retrait du trait de côte. C'est aussi une des conséquences de l'adaptation au changement climatique sur l'érosion côtière. Et puis, il y a un domaine dont on parle pas assez, je trouve, qui est la première victime du changement climatique, c'est la montagne. Toute l'économie de montagne est encore en train de se transformer. Le réchauffement climatique va deux fois plus vite en montagne que dans la plaine. Mmh. Et donc, toutes les stations de sport d'hiver qui étaient sur le ski sont en train de faire une transition majeure d'une autre forme de tourisme qui prendra en compte la réduction des périodes d'enneigement.
Bon, il faudra que vous reveniez nous voir pour parler de ça, parce que c'est fondamental, c'est toute l'économie qui est en train de se réinventer avec le territoire. Merci infiniment à tous les deux.
Merci.
Jean-François Copé, maire de Meaux et organisateur, donc co-organisateur de ces rencontres de Roissy-Meaux Aéropole, et Olivier Sichel, directeur général délégué de la Banque des Territoires, enfin de la Caisse des Dépôts et directeur général de la Banque des Territoires. Merci à tous les deux. Et on accueille à présent un entrepreneur dans BFM Climat pour finir cette émission, quelqu'un qui s'est lancé un pari un peu fou et qui l'a réussi, faire le tour du monde à bord d'un bateau alimenté uniquement avec des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Bonjour, Victorien Russard. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes capitaine, vous êtes chercheur, vous êtes entrepreneur aussi avec donc ce bateau qui s'appelle l'Energy Observer. Déjà, expliquez-nous ce projet et pourquoi vous êtes lancé là-dedans.
Alors, Energy Observer, c'est notre navire laboratoire, hein. C'est la genèse d'Energy Observer. Parce que ce projet, j'ai commencé à le développer en 2012. Donc,
Il y a 12 ans.
Exactement.
Ouais.
Et dès 2013, je me suis intéressé à l'énergie, au stockage, pour décarboner le secteur maritime qui m'intéresse beaucoup. Hein. Moi, je suis capitaine de marine marchande, je suis aussi coureur au large, donc j'ai dédié ma vie à la mer.
Ouais.
Et donc, en 2013, naviguer avec zéro émission, ça nécessitait donc, pour faire le tour du monde en plus, hein, parce que c'était l'ambition de ce navire laboratoire, ça nécessitait d'avoir une quantité d'énergie importante, bien évidemment, pour être adapté à notre mix énergétique. Donc sur le bateau, on a de l'éolien, du photovoltaïque, on a de l'hydroélectricité, etc.
Ouais.
On a des batteries, mais des batteries, on en a pas beaucoup. Et on a de l'hydrogène. Et donc les batteries, c'est le stockage court terme. L'hydrogène, c'est le stockage long terme.
Mm-hmm.
Par contre, cet hydrogène, surtout en 2014, déjà qu'on en trouve peu dans nos infrastructures portuaires, presque pas du tout.
À l'époque, c'était inexistant. Ouais.
Voilà. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'intégrer une chaîne complète à bord du navire avec un prélèvement d'eau de mer, une désalinisation, donc pour avoir de l'eau pure, une électrolyse, beaucoup parlent de l'électrolyse pour produire de façon massive l'hydrogène bas carbone, donc la fraction de la molécule H2O, le stockage à travers des réservoirs compressés à 350 bars et une pile à combustible.
Okay.
Et donc ce système nous permettait de faire ce tour du monde, de tester toutes ces briques technologiques dans différentes latitudes à travers le monde, que ce soit dans des zones très chaudes comme des zones très très froides. On a pu s'approcher à moins de 1200 km du pôle Nord avec Energy Observer.
Ouais, donc vous étiez totalement autosuffisant. Vous aviez autoproduit votre énergie.
On a
avec toutes ces briques.
Exactement. Donc et trois fois le tour de la Terre avec ce tour du monde. Alors il a été extrêmement lent. Hein. Attention, on n'a pas d'un.
Oui, ça a duré 7 ans. Vous appelez ça une odyssée. C'est vrai que le mot est joli.
Exactement.
Vous êtes parti 7 ans.
C'était de 2017 à 2024.
Ouais, vous venez de rentrer.
Et on vient tout juste de rentrer à Paris à la fin pendant les Jeux Olympiques. Et donc ce bateau a apporté énormément de retours d'expérience sur la filière hydrogène. Vous savez, moi au début, tout le monde me disait attention, ces technologies sont pas matures, la pile à combustible, l'environnement marin hostile, etc. Ouais. Et donc,
C'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a des doutes. Alors vous avez prouvé le contraire. Aujourd'hui encore, l'industrie hydrogène n'est pas mature.
Mais on a prouvé le contraire. Donc déjà, on a collaboré avec des excellents partenaires industriels. Hein. Vous savez, à travers cette aventure Energy Observer, c'est plus de 51 partenaires engagés.
D'accord.
Donc on a travaillé avec des industriels experts, hein, que ce soit dans le maritime, avec CMA-CGM, avec Air Liquide, avec Toyota, avec le groupe Accor, etc.
Okay.
Donc ça a permis que chacun apporte son expérience pour cette aventure technologique. Et voilà, mais on s'est pas arrêté là. Tout le monde nous connaît sur à travers ce navire
votre
laboratoire,
ouais.
Cette odyssée autour du monde. Mais derrière, vous parlez d'entrepreneurs. Hein, j'ai essayé de transformer, c'est-à-dire de rendre accessible ce que l'on a développé.
Ah, parce que c'est ça que j'allais vous demander. Après la phase labo, test, aventure, ça va être quoi les suites derrière?
Alors,
qu'est-ce qui va être transposé dans le maritime accessible aux entreprises, au grand public?
Alors, plusieurs aventures. Ça passe par la création d'EODEV, donc Energy Observer Développement en 2019. Et donc l'objectif, c'était de capitaliser sur notre savoir-faire et de rendre accessibles donc ces technologies. Donc on a développé pour ça une application terrestre et maritime. On est devenu leader mondial des applications terrestres. Donc c'est la conception, l'industrialisation, la commercialisation de groupes électrohydrogènes. On est complètement sur une solution alternative au groupe diesel. Vous savez qu'on a besoin de produire de l'électricité lorsqu'il n'y a pas de réseau électrique.
Ouais, ouais.
Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'était de certifier un module maritime pour propulser les navires. C'est ce qu'on a fait avec un système qui est certifié d'ailleurs par deux sociétés de classification, le Bureau Veritas et DNV. Mmh. Et maintenant, on a 6 bateaux qui naviguent. On a déjà... Alors c'est une fierté parce qu'en ce moment se déroule l'America's Cup.
Ouais.
Il y a les organisateurs ont imposé à ce qu'il y ait des navires suiveurs, les High Speed Vessels, les HSV, pour suivre les AC-75, propulsés électriquement via de l'hydrogène. Donc on a le bateau des Américains et le bateau des Français.
D'accord.
Derrière, on a un taxi-boat.
Vous avez fourni cette techno?
Exactement. Okay. Derrière, on a un taxi-boat sur Marseille. Derrière, on a un navire de pêche qui a été mis à l'eau il y a 3 semaines. Mm-hmm. Et dans quelques semaines, un baliseur océanique. Donc, ces technologies sont accessibles. Cela fonctionne très, très bien.
Ouais.
Le sujet, bien évidemment, ce sont les infrastructures et le coût de l'hydrogène. On en parle beaucoup aujourd'hui.
C'est ça.
Dernière étape. Ouais. En tant qu'officier de marine marchande, je m'intéresse bien évidemment au secteur maritime. Mon rêve, c'est que des navires de commerce puissent fonctionner avec le moins d'émissions possible. Alors pour cela, il y a plein de chemins. On a parlé beaucoup des carburants, des SAF, hein, des carburants de synthèse.
Ouais.
Dans le maritime, on parle beaucoup, bien évidemment, de GNL qui est la première étape, de méthanol, d'ammoniac. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de passer de la phase gazeuse à la phase liquide, l'hydrogène liquide, comme le fait Airbus avec son avion Zero E. Donc depuis 2 ans, on travaille avec quelques-uns de nos partenaires de l'expédition travailler sur le développement d'un navire de charge, le navire de charge le plus bas carbone au monde, Energy Observer 2, qui pourrait transporter de la marchandise autour de l'Europe avec à bord un système 100 fois plus puissant que celui que l'on a sur Energy Observer.
D'accord. Ah, donc vous voulez déjà repartir à l'aventure là?
Bien sûr.
Avec un nouveau bateau?
Bien
D'accord.
sûr. Okay. Et de l'hydrogène liquide à bord du petit bateau, 62 kilos d'hydrogène lorsqu'on est au plein d'énergie. Sur le prochain bateau, on parle de 40 tonnes d'hydrogène liquide.
Wow. Ah, rien à voir.
Donc c'est un sacré pari technologique.
D'accord.
Mais on sait que cette partie-là est maîtrisée. On peut construire ce genre de navire. Maintenant, c'est rendre accessible une molécule hydrogène liquéfiée à coût accessible, je le répète.
Voilà, c'est ça que j'allais dire, à coût accessible. C'est-à-dire que là, c'est des prouesses technologiques ce que vous faites, mais c'est encore du domaine du rêve, un petit peu quelque part, enfin qui existe, mais c'est pas accessible à tout le monde.
Non, mais ce qu'il faut, c'est réunir tous les acteurs très motivés pour être pionniers sur la décarbonation. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a bien évidemment des associations à faire, des synergies à trouver entre le monde de l'aéronautique et le monde maritime. Donc il faut associer tous les acteurs pour permettre des projets pilotes d'émerger.
Bon. En tout cas, bravo pour cette aventure, pour ces aventures, parce qu'effectivement, ça nous fait rêver. Et il y a déjà des rêves qui deviennent réalité avec Energy Observer. Et ce que vous faites quelque part, c'est un peu ce qu'a fait Bertrand Piccard dans les airs, hein, avec son Solar Impulse. Vous l'avez fait sur les océans avec votre bateau, avec l'Energy Observer. Merci beaucoup, Victorien Russard, d'avoir été avec nous dans BFM Climat, donc fondateur de l'Energy Observer. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de BFM Climat, donc depuis les rencontres de Roissimo Aéropole. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on garde contact évidemment sur notre appli BFM Business, sur notre site internet en replay, en ligne, sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.